With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute l'actu tech, internet et gadgets. C'est l'épisode 408, nous sommes en juin 2021. Je suis Patrick et nous sommes avec Marion et Siegfried. Marion, à côté de moi, sur ma, je ne sais pas, gauche ou droite, puisqu'elle est en France et moi je suis en Finlande. Comment ça va Marion? Tu es en forme?
Très bien. Très bien, très bien. Reprends ta respiration, là tu nous as fait une introduction.
Tu sais, j'essaye de récupérer l'énergie du vide parce que je dois t'avouer que bah on en parlait juste avant avec Siegfried. Comment ça va, Captain Web? T'es en forme aussi?
Ah, écoute, ça va très bien. Je suis relativement en forme pour un lundi matin.
On disait avant de lancer l'enregistrement qu'on était tous les trois. En fait, ma voix normale, en fait, c'est comme ça, tu vois. Et je pense que faire un épisode complet comme ça, ça risque d'être un peu compliqué et ça ne va pas forcer. Peut-être que ça plairait à certains, mais non, moi, je ne tiendrai pas. Donc, il faut une vraie énergie. On parlait d'histoire d'enfants. Mon fils est malade, en fait. C'est pour ça que ça a fait...
Tu vois,
et la petite a 2 mois et elle... Bon, bref. Et donc, il faut avoir de l'énergie. Et heureusement, j'ai de l'énergie qui m'est envoyée sous forme d'amour, qui m'a envoyé sous forme d'argent pour que je puisse faire mon métier, par les Patriotes qui m'envoient leur Genki Dama. Je voudrais remercier spécifiquement aujourd'hui Loïc Barneau, Maxime Tessier, François Pirolet, Mallory Baudreau et Gabriel Frey, qui sont les Patriotes de cet épisode, et un nouveau producteur, Derek Herbe, qui fait partie du groupe des glorieux producteurs. Derek nous suit depuis bien longtemps et je suis très fier et très heureux qu'il continue à soutenir l'émission et puis au niveau producteur. Donc merci à toi d'avoir financé spécifiquement cet épisode et merci à tous ceux qui soutiennent le Rendez-vous Tech. Et donc on va parler de plein de choses qui vont nous remplir d'énergie avec notre amour du football, football malmené avec la Ligue 1... honteusement attribué à un petit jeune qui ne saura certainement pas quoi en faire, au mépris des historiques de l'amour du foot que sont Canal+. On va parler donc de ça. On va aussi parler de Facebook qui a des plans intéressants dans le domaine de l'informatique, de la technologie portée et d'autres petites choses de ce côté-là. On va aussi parler de ransomware, de rançongiciel, des suites de la WWDC d'Apple, qui a toujours des petites news intéressantes après le début de la conférence elle-même, et puis plein d'autres petites news. Et donc, vous voyez que le programme va être fort sympathique. Et je commence avec cette news qui est tombée la semaine dernière. Amazon a récupéré les droits de la Ligue 1. Et c'est marrant parce qu'on en parle depuis... Ah, je voulais signaler aussi, on enregistre donc lundi matin, comme l'a dit Siegfried, donc on n'est pas en live pour une fois, vous inquiétez pas, d'habitude on est en live tous les mardis midi sur Twitch, cette fois-ci c'est pas le cas, mais on sera de retour en live la semaine prochaine. C'était un petit peu compliqué cette semaine-ci, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. Mais donc, la Ligue 1 arrive chez Amazon plutôt que chez Canal+, et ses amis, beIN Sports, tout ça. Et il y aura donc une diffusion de, je ne sais plus combien, c'est peut-être pas tous les matchs, mais bon, il y aura plein de matchs qui seront diffusés chez Amazon. C'est marrant parce qu'on en parle depuis longtemps. On sait bien que le sport, c'est l'un des énormes points forts de la télévision et les droits des retransmissions sportives s'arrachent à prix d'or pour attirer des clients chez les différentes chaînes de télévision. Et on en parle depuis longtemps. À un moment, il va y avoir l'un des GAFAM qui sont en train de tout bouffer et qui sont en particulier en train de se lancer dans la diffusion, d'étoffer leur service de streaming. Et là, c'est fini, ça a fini par arriver avec Amazon qui a raflé la mise et Canal+ qui a réagi en disant « Bon, bah, si c'est comme ça, adieu, au revoir. » Il y avait certains matchs qu'ils étaient censés diffuser pour lesquels ils avaient les droits qu'ils ne vont pas diffuser. Ils ont vraiment claqué la porte. Et je ne sais pas vraiment quoi en penser à ce niveau-là. Moi, j'ai l'impression... Alors, c'est toujours très politique, le sport. Hein. Il y a toujours... Moi, je ne suis pas un grand spécialiste du football. Donc, je ne sais pas s'il y a quelque chose de fondamentalement pourri dans ce processus. Mais moi, j'ai l'impression qu'ils ont des enchères à faire. C'est ceux qui payent, qui donnent le deal, le meilleur deal. Et l'argent est une énorme partie de ce deal, j'en suis sûr, bah, qui récupère les droits. Je suis sûr que Canal+ a payé beaucoup d'argent pendant très longtemps et ils ont remporté les droits au nez et à la barbe d'autres acteurs pendant longtemps. Est-ce que je rate quelque chose ou est-ce que c'est vraiment Canal+ qui se drape, qui se voile dans sa fierté, alors que bon, il y a rien de malhonnête là-dedans, j'ai l'impression.
Ah, c'est un truc qui date, enfin qui a commencé avec l'histoire de, c'était quoi, c'était Téléfoot, c'est ça la chaîne qui avait, enfin la chaîne qui avait été créée et qui du coup avait racheté les droits et qui a
fini. MediaPro, oui.
Ouais, MediaPro, c'est ça qui a fait faillite. Ouais. Je crois qu'au final c'est une affaire du plus celui qui donne le plus, quoi.
Ouais.
Tout ça, quoi. Amazon a les moyens de payer même en perdant beaucoup d'argent sûrement et de s'attribuer ce qui avant était quand même l'exclusivité de la télévision classique.
Bah, c'est ça, c'est pour ça que ça marque, c'est que le sport aux États-Unis, ça commence à bouger un peu, mais le sport, les grandes rencontres sportives, c'était jusqu'à il n'y a pas si longtemps l'apanage des chaînes classiques, des chaînes de télévision hertziennes ou enfin câble, enfin les chaînes classiques. Et là, de plus en plus, d'ailleurs, tu me disais, Marion, avant qu'on lance l'enregistrement, pour Roland Garros, qui est diffusé sur Amazon Prime Vidéo également cette année, ils ont mis le paquet aussi, quoi.
Ouais, c'est assez impressionnant comment ils vont tirer parti de leurs différents services et de leurs différentes applications, notamment Amazon, l'application standard où vous pouvez acheter vos courses, n'importe quoi, vous pouvez acheter tout sur Amazon. Et ben en fait, moi je l'ai ouverte hier et en fait il y avait une grande bannière, toute la première page était dédiée à Roland Garros. Du coup, à un moment donné, je me suis posé la question si j'avais ouvert la bonne app. mais oui. Donc, en fait, comment ils font des vases communicants entre leurs différents services? Et je pense que c'est là où Canal+ essaye de jouer leur rôle de mauvais perdant. C'est-à-dire que, est-ce que c'est juste qu'un géant comme Amazon puisse concourir ou participer aux enchères? Évidemment, ils ont peut-être plus de sous que Canal+, mais bon, Canal+, ils font aussi partie d'un gros groupe. Donc, bon... On pourrait se questionner aussi. Donc voilà, je pense qu'ils essayent d'utiliser la mauvaise presse d'Amazon pour se faire peut-être bien voir ou se dire c'est injuste qu'Amazon ait récupéré les droits. Mais jusqu'où c'est défendable, cette posture?
Ça, je ne sais pas. Et c'est le problème. Et puis, d'un autre côté, qu'est-ce qu'ils vont obtenir? Là, c'est fini. Ce n'est pas comme si la Ligue allait tout à coup dire « Ah non, mais finalement, les pauvres, Canal+, c'est vrai que c'est quand même vraiment trop injuste. Ils font Calimero, donc on va finalement retirer les droits à Amazon. »
Je ne suis pas tout à fait d'accord. Ça ne serait pas la première fois que le gouvernement mette son nez dans des affaires business où, a priori, ils n'auraient pas leur place à s'exprimer. Donc, voilà. Est-ce que
c'est
Canal+,
sûr, mais enfin, là, on ne sait pas. T'imagines que le gouvernement vienne mettre son nez là-dedans et dise « Ah bah non, la Ligue, vous n'avez pas le droit de vendre à Amazon et vous faut vendre à un acteur français. »
Il l'a fait dans d'autres histoires.
Après, moi, je connais pas grand-chose en foot, mais j'ai l'impression que ce n'est pas la première fois qu'il y a du drama dans tous les ans quand il s'agit des droits. À chaque fois, forcément, il y a des perdants qui sont pas contents.
Ouais.
Mais moi, je trouve que ce qui marque le plus, c'est le déplacement de la télé classique vers le streaming. Et au final, bon, là, effectivement, il y a en plus, Prime avait remporté Roland-Garros, sans faire trop de pub. D'ailleurs, c'est ça qui m'a étonné, parce que je l'ai découvert moi aussi, alors pour le coup, en ouvrant Prime Vidéo, mais j'en avais pas entendu parler ailleurs, j'avais pas vu d'affiche, j'avais pas vu quoi que ce soit, et vu combien ça a dû leur coûter. Oui, c'est assez étonnant qu'ils en parlent.
Oui, je suis surpris aussi. Mais tu sais, ça a dû leur coûter beaucoup, mais c'est quelques pièces qui traînaient dans la fond du poche du pantalon pour Jeff Bezos.
Oui, évidemment, pour eux, c'est
sans
doute pas grand-chose.
Et puis là, il faudra voir... Vas-y.
Oui, Non, je disais, c'est aussi moi, une question que je me pose pas mal, c'est de savoir combien ils perdent d'argent. Parce qu'il y a quelques années, alors, je ne sais plus quand c'était, ça devait être il y a 3-4 ans, il y avait, je crois que c'était JP Morgan qui avait fait une étude. Vous avez calculé qu'en fait, le service Prime, donc, parce que Prime, c'est d'abord la livraison gratos, mais aussi, alors maintenant, tu as un abonnement premium Twitch, tu as plein de choses, tu as la musique, tu as Prime Vidéo. Et tout ça, en fait, c'est un énorme déficit pour Amazon. À l'époque, je crois que c'était de l'ordre de $500 et quelques. Combien ils estimaient qu'ils perdaient sur chaque abonnement Prime avec tout ce qu'ils devaient payer en droits, etc. Et à l'époque, le catalogue Prime était quand même beaucoup moins fourni qu'aujourd'hui, quoi.
Donc, j'imagine qu'ils comptaient pas là-dedans le fait que les utilisateurs sont sur Amazon et donc font. Il y avait des chiffres qui étaient de l'ordre de. Je crois qu'on en parlait avec Jérôme Marin il y a une ou deux semaines. Un utilisateur qui est abonné à Prime achète des choses sur Amazon, genre 3 fois par semaine au lieu d'une fois par mois, un truc du genre, j'exagère. Mais
ouais, bon, bah oui.
Après, ça aussi, c'est biaisé parce qu'évidemment, quelqu'un qui achète beaucoup va être abonné Prime, mais c'est dans ce calcul et j'imagine qu'eux ont les chiffres. Mais il faut voir aussi si sur ce point, ils vont effectivement perdre de l'argent parce que ça ne me surprendrait pas qu'ils aient un pass. Vous savez que sur Amazon Prime Video, il y a aussi la possibilité d'acheter ou de s'abonner à d'autres chaînes ou d'acheter des trucs spécifiques, contrairement aux autres types de services de streaming. Et là, j'imagine qu'il y aura un pass genre pass Ligue 1 ou pass football où on aura droit au match et qui coûtera un petit peu
offert.
Ouais,
pour l'instant, possible. On n'a pas d'infos confirmées là-dessus, c'est ça ?
C'est ça, exactement.
Mm. On ne sait pas combien ils ont payé pour ça.
Je t'avoue que j'ai pas les chiffres en tête, mais comme toi, moi, je pense que le plus important, c'est effectivement encore un bastion d'un média traditionnel ou même d'un business traditionnel qui passe dans le giron de la tech, au-delà des GAFAM, qui passe dans le giron de la tech, et c'est ça qui est vraiment qui fait de cet événement un événement notable, quoi.
Ouais, et puis
en plus, ça va durer longtemps, hein, parce que là, c'est jusqu'en 2024, hein, donc jusqu'à la saison. Donc, ça va être intéressant de voir comment ils utilisent cette acquisition pour avoir des nouveaux utilisateurs Prime ou faire plus parler de leur service.
Tout à fait.
Il y a une grosse bagarre qui s'annonce, à mon avis, entre la télé classique, d'ailleurs, on le voit avec le rapprochement entre M6 et TF1. Et de l'autre côté, tout ce qui est abonnement à la demande, parce que, bon, je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je calcule combien de trucs je suis abonné, entre Netflix, Amazon, Disney+, sans compter tous les trucs de jeux vidéo, PlayStation Plus, etc., ça commence à faire beaucoup par mois, hein, au final.
Ça fait beaucoup, mais ce qui est intéressant, c'est que tout ce qu'on en retire, alors on n'est pas obligé d'être abonné à tout, mais c'est ce que je dis régulièrement. Un abonnement, si on prend l'exemple de, je sais pas, Spotify ou Apple Music ou ce que c'est, ça coûte moins que le prix d'un CD, tu vois, l'abonnement. Et donc, si tu achetais un CD par mois ou même un CD tous les 2 mois, pour les anciens qui connaissent l'époque des CD, c'est l'équivalent de ce que tu obtiens aujourd'hui et tu as accès à tout. Alors évidemment, pour le streaming de vidéos, ce n'est pas la même chose, mais même là, on peut être abonné à, je ne sais pas, Netflix et un truc en plus, et on a une quantité de trucs à voir qui est assez hallucinante.
C'est invraisemblable.
Donc, je ne sais pas si... Je pense qu'on a tendance à s'abonner à plein de trucs et puis à les oublier, mais je ne pense pas non plus que tu vois pour... je ne sais pas si on compte entre 50 et 100 euros par mois. Il fut une époque où on s'abonnait à 100 euros par mois pour avoir les packs satellites ou câbles qui nous donnaient accès à des chaînes pourries.
C'est ça. C'était très cher Canal Plus à l'époque.
Exactement.
À l'époque du décodeur, etc. Je ne sais pas combien ça coûte aujourd'hui d'ailleurs.
Je ne sais plus, mais je suis sûr que c'est quoi. Ça doit être. Enfin, ça dépend. Il y a plein de formules différentes, mais je pense que ce n'est pas bon marché non plus. Hein. Et du coup, c'est vrai qu'au final, ça numérairement, ça fait des sommes qui ne sont pas négligeables quand on est abonné à plusieurs services, mais il faut relativiser aussi parce que ça donne accès à des pans entiers de la culture qui étaient simplement inaccessibles il y a 10 ans. Tu vois, pour ce genre de sommes, ça aurait été inespéré. Donc, bon.
Ouais, et puis, il faut comparer aux alternatives qui, comme tu le disais, sont l'achat de CD ou de DVD physique ou d'aller au cinéma. Donc, tu as le prix de la place de cinéma, etc.
Je pose la question quand même de voir s'il y aura de la place pour tout le monde. Si tu prends par exemple l'exemple de la vidéo sur demande, il y a des services qui ouvrent tous les jours. Ça fait quand même... je sais pas, il y a des trucs qui sont assez redondants au final. Donc on se pose la question à un moment, est-ce que j'ai besoin de tout ?
Clairement.
C'est sûr, mais c'est pour ça que le contenu... Là, on part un peu de la question d'Amazon, même si en même temps, on est en plein dedans aussi, parce que c'est une question au final.
D'où l'importance peut-être d'offrir du sport qui n'est pas du tout offert par les autres, enfin, ou très peu, et justement d'avoir un avantage sur les concurrents.
Bah, c'est sûr qu'on est dans une période d'extension importante pour ce type de service et tout le monde veut un petit peu se faire sa place parce que sur le long terme, c'est vrai qu'il en restera peut-être un petit peu moins, il y aura une consolidation. Mais en même temps, moi, je peux tout à fait imaginer qu'il y ait, je ne sais pas, 4 ou 5 gros acteurs et puis des acteurs spécialisés. Il y a des chaînes comme Curiosity Stream qui fait des documentaires avec Nebula qui travaille avec des YouTubers qui font des trucs intéressants. Il y a Disney Plus qui est un petit peu moins cher maintenant, je suis sûr que ça va devenir de plus en plus cher, mais ils ont quand même un type de service spécifique. C'est les trucs Disney pour les enfants, les trucs Marvel.
Ils ont leur catalogue.
C'est ça. Et donc, tout est basé sur le contenu. Il y a Netflix qui est incontournable. Il y a Apple qui ne fait pas. Mais je pense qu'il risque d'y avoir un petit peu de consolidation. Mais le truc qu'on oublie aussi, c'est que tout le monde n'est pas forcément obligé de s'abonner à tout. Et en plus de ça, on peut être abonné un mois et arrêter l'abonnement quand on veut, ce qui est encore une différence notable avec les systèmes qu'on avait avant, qui étaient et qui vous forçaient à vous engager sur très très longtemps. Donc, mais bon, bref. On est parti sur une discussion un petit peu plus large, mais c'est vrai que pour le coup, Amazon qui récupère la Ligue 1, c'est clairement un moyen de fournir du contenu qui n'est pas disponible ailleurs. Et on a vu qu'ils ont fait d'autres opérations de ce type-là dans d'autres domaines. C'est le contenu qui va être important au fur et à mesure que les services se multiplient. Parlons un petit peu de Facebook et de leur smartwatch qui a été leaké, en tout cas il semble qu'il soit en train de travailler dessus. Ça serait une smartwatch. Bon, c'est pas les premiers à faire un appareil qui soit portable, un appareil que ça soit un téléphone ou une watch ou un truc comme ça, dans des sociétés dont on n'attend pas forcément ça. Là où c'est intéressant à plusieurs titres. D'une part, elle aurait un écran détachable avec deux appareils photo, un à l'avant et un à l'arrière, pour faire de la vidéoconférence, prendre des photos, ce genre de choses, pour ajouter encore des fonctions qui sont disponibles sur le téléphone et les transférer vers la montre. Là où c'est intéressant, c'est que l'idée est peut-être de court-circuiter les constructeurs de téléphones. Donc ça, c'est une intention qu'on peut tout à fait imaginer de la part de Zuckerberg. En même temps, je ne suis pas tout à fait sûr qu'un appareil qui soit là pour... elle se focalise sur votre santé, donc elle a tout un tas de capteurs, comme un capteur de rythme cardiaque, ce genre de choses. Est-ce que c'est un truc qu'on veut donner à Facebook? Je ne sais même pas quel OS ils veulent utiliser. J'imagine que ça sera un OS au minimum dérivé de Wear OS. Peut-être qu'ils vont faire le leur, je ne sais pas. La montre, c'est suffisamment simple pour qu'ils puissent faire ça. Ils ont d'autres OS ailleurs. Je suis un petit peu curieux, ça me paraît être un produit étrange et je ne suis pas certain de qui en voudra, mais en même temps, c'est peut-être normal que Facebook essaye de gagner en indépendance au niveau matériel parce qu'ils n'ont pas l'air très contents de ce qui se passe dans ce domaine-là. Vous pensez que ça pourrait être un succès? Peut-être que je vais demander à Marion, une montre Facebook, tu vois les gens acheter une montre Facebook?
Au-delà de l'enjeu de données personnelles, etc., ne serait-ce que la description me laisse assez
dubitative.
C'est-à-dire que le principe de la montre, c'est que tu puisses détacher la montre pour prendre une photo avec une caméra. Alors, il y a une caméra à l'avant pour les appels, etc., et ça, à la rigueur, je comprends, mais il y a une caméra à l'arrière. La définition de la caméra à l'arrière, c'est qu'elle prend en photo ton poignet. Ou sinon, en effet, il faut l'enlever. Donc, ça veut dire
qu'il faut la détacher, c'est ça. Oui.
C'est ça. C'est qu'il y a un problème utilisateur suffisamment intéressant pour Facebook pour se dire on va mettre une caméra parce qu'on est certain que les gens vont détacher leur montre plusieurs fois par semaine, peut-être, ou par mois, pour que ce soit intéressant de prendre en photo avec la caméra de dos. Comment tu fais aussi pour protéger cette caméra de dos, sachant que cette caméra sera soit au contact de la peau, donc il y a du sébum, donc de la graisse, donc ça va rendre l'objectif flou, ou sinon ça veut dire qu'il faut que tu le clapes dans un bracelet qui fait le tour de ton poignet, qui lui ne bouge pas, et tu clapes la montre dedans. Bref, je suis assez dubitatif de c'est quoi ce use case de détacher la montre.
Je suis assez d'accord, ça sent le truc où on se dit, pour amener les gens à utiliser la montre autant que le téléphone, il faut y intégrer les fonctions du téléphone, et donc il faut y mettre des appareils photo. Mais du coup, on fait comme... C'est pas grave, mais des appareils photo. Oui, mais c'est-à-dire que...
Je suis assez d'accord avec Marion, quoi. Je vois pas trop l'utilisation du... Je vois pas trop à quoi ça va servir. Bon, déjà, une montre Facebook, ça me fait peur, parce que j'ai pas... Facebook, il y a assez de mes informations. J'ai pas envie de lui filer en plus mes informations de santé, honnêtement. Mais en plus, quel est l'intérêt ? Il y a déjà plein de montres qui fonctionnent assez bien.
Donc en gros, c'est ça, la question, c'est quoi le nouveau problème qu'ils essayent de résoudre, ou c'est quoi l'avantage compétitif par rapport à ce qui existe déjà ?
C'est quoi le plus produit ? C'est quoi le plus produit, Mark ? Mark Zuckerberg, on te pose la question. Et je sais
parce qu'en plus, ça me semble plus facile de sortir son téléphone portable et de meilleure qualité pour prendre des photos, plutôt que de commencer à détacher sa montre. Mmh. En plus, une montre, c'est tout petit, quoi, pour prendre des photos avec ça, je sais pas.
Oui, je suis perplexe aussi. Il y a une utilisation qui pourrait potentiellement être intéressante, qui est un outil de contrôle pour des lunettes de réalité augmentée ou pour de la réalité... Oui, ce type d'appareil sur lesquels serait en train de travailler Facebook aussi. Je pourrais imaginer que dans ce cas-là, peut-être, que ça pourrait donner quelque chose, mais présenté comme ça, c'est effectivement...
Mais le truc, encore une fois, c'est que là où ils sont très très malins chez Apple, c'est que tu vois, ils ont inséré chez le grand public un problème utilisateur intéressant pour les gens, même si c'était planté au lancement de l'Apple Watch. Clairement, maintenant, l'Apple Watch, c'est pour les gens qui veulent monitorer leur santé ou avoir des petits raccourcis assez pratiques, etc. Mais là, c'est installé, tu vois. Et après, ils peuvent enrichir l'Apple Watch s'ils souhaitent se lancer, en effet, sur le segment de la réalité augmentée et que l'Apple Watch est pertinente. Ils sont déjà installés. Ça marche. Donc, pour un nouveau problème utilisateur où la réalité augmentée, ça reste encore beaucoup de à quoi ça va servir, il faut quand même le reconnaître. Commencer par un objet qui a déjà conquis le grand public, ça marche. Mais lancer sur quelque chose qui est encore très abstrait pour le grand public et lancer un appareil sur lequel on ne comprend pas trop à quoi ça sert, c'est double peine, quoi. Je suis quand même intéressée par voir comment ils vont présenter le produit et pourquoi ils ont pensé que c'était intéressant.
En plus, Apple a tout un écosystème qui est déjà en place. Facebook, ils ont tout à créer, quoi. Enfin, moi, qu'on se balade dans la rue avec un Oculus, mais ça commence à devenir compliqué.
C'est un peu plus compliqué, oui. Écoutez, dans des domaines un tout petit peu similaires ou connexes, on a d'une part, c'est un petit peu les différentes applications de l'intelligence artificielle et de la fabrication de fausses choses, même pas, en fait. Ce que Facebook a présenté, c'est un outil qui s'appelle Text Style Brush, qui est un outil d'intelligence artificielle, un projet qui permet de copier le style d'un texte sur un autre texte, enfin sur votre texte tapé normalement à l'ordinateur, en utilisant un seul mot du texte modèle. C'est-à-dire que si vous avez un truc qui est un petit peu écrit à la main ou avec une police particulière, vous pouvez... simplement montrer à l'appareil photo, enfin à votre téléphone par exemple, ce mot, il n'y a même pas besoin de lui faire travailler sur des tonnes de textes pour qu'il comprenne le style, juste un mot de quelques lettres et il va pouvoir
ça ressemble beaucoup à What the Font.
À What the Font ?
Oui, What the Font, en fait c'est un upload, un JPEG d'un mot et ça va te donner une liste de polices de caractères qui sont compatibles.
C'est mythique. C'est mythique ce service pour tous les designers.
C'est indispensable. Alors, quand un client file un truc tout pourri et que tu as besoin de savoir ce qu'il utilisait comme police. Alors bon, systématiquement, c'est des polices à $600 pièce.
Bon. Évidemment.
Mais ça existe depuis combien de temps ? Genre au moins 20 ans ce site-là.
Ça fait super longtemps. Ouais.
Mais alors, c'est pas tout à fait la même chose parce que là, ça prend une police de caractère, mais c'est même pas une police de caractère. Ça peut être peut-être pas à la limite des graffitis, mais vraiment n'importe quel style de police, mais pas une fonte de police, vraiment un style, et ça va pas te dire de quelle police il s'agit. Ça t'applique simplement ce style-là à ton texte. Et donc, t'as même pas besoin de passer par... ça pose même une question intéressante pour la propriété intellectuelle. Ça te l'applique de la même manière que, vous savez, on a vu des démos assez impressionnantes de copies de style de peinture, de type de film, appliquées à une photo.
Ouais, c'est le deepfake de l'écrit, quoi.
Exactement, exactement. Et bon, il parle d'ailleurs de deepfake en disant ça va nous permettre de développer des technologies qui nous permettent de reconnaître, machin. Donc, ils essayent de se ménager un peu. Mais c'est vraiment intéressant comme technologie. Ça existait déjà, mais il fallait travailler les algorithmes sur beaucoup d'exemples. Là, c'est vraiment un mot. Donc, bon, c'est le progrès inexorable de l'intelligence artificielle et du deep learning qui est impressionnant. Et puis, en parallèle de ça, il y a dans le domaine des réseaux sociaux, ByteDance, la société mère de TikTok notamment, qui est en train de mettre à disposition son algorithme de recommandation en tant que service payant, bien sûr, pour des sociétés tierces. C'est hyper intéressant parce que la grande force de TikTok que tout le monde lui reconnaît, c'est la pertinence de son algorithme et sa capacité à détecter des vidéos qui plaisent et qui vont vous plaire. Et c'est vrai que c'est quand même très, très bien fait sur TikTok. ByteDance a développé son algorithme sur TikTok et sur d'autres applications de ce type-là. Et ils le mettent maintenant à disposition en service payant, ce que je trouve extrêmement intelligent et intéressant. Il faudra voir où ça va. Et en parallèle de ça, il y a aussi la confirmation que les États-Unis ont annulé, en gros, les bannissements de TikTok et de WeChat et de ces sociétés-là qui étaient un petit peu... Vous vous souvenez que pendant la période de la présidence Trump, on a eu plusieurs bannissements de sociétés. Certaines, on pouvait les comprendre, même si on n'était pas sûr des motivations, comme Huawei et ces sociétés-là. Et puis d'autres, on était quand même beaucoup plus perplexes, comme TikTok notamment. Eh bien, Joe Biden, le nouveau président américain, vient de signer un executive order qui annule ce ban. Donc, TikTok peut respirer désormais. Et je crois que c'était Cédric Ingrand qui nous avait prédit que ça n'irait nulle part au final. Eh bien, il avait raison. Aujourd'hui, ça semble évident. À l'époque, c'était un petit peu moins le cas. Donc voilà, sur les petites news sur TikTok.
C'est hyper intéressant hein, ce qui s'est passé, comme tu disais, hein, pour ByteDance. Comme quoi, ce n'est pas forcément évident quand on regarde de l'extérieur cette stratégie de dire on va monétiser notre savoir-faire et le mettre à disposition de potentiels compétiteurs dans le futur par rapport à nos propres apps. Donc là, ils monétisent leur savoir-faire en termes d'algorithmes et toutes les choses intelligentes qu'ils ont pu mettre à disposition dans leurs apps. C'est ce qui s'est passé avec Amazon et AWS, quoi. C'est un autre exemple de comment Exactement. On démarre de concevoir des outils internes et ensuite monétiser ces outils internes à des potentiels clients, quoi. Et je trouve que cette stratégie n'est pas évidente, mais je trouve que c'est vraiment intéressant que Biden s'y mette, justement.
Oui, tout à fait. Attention, hein, c'est ByteDance et pas Biden. C'est pas Biden qui met à disposition
Joe Biden. Oui, ByteDance. J'ai mordu les...
mais c'est ça qui a un gros potentiel, parce qu'il y a plein de sociétés qui n'ont pas forcément les moyens de développer un algorithme pareil et qui sont peut-être intéressés.
Complètement, complètement. Et c'est vraiment inhabituel, ou je dirais même inattendu, parce que traditionnellement, dans les grandes sociétés de la tech, l'algorithme, c'est le cœur de leur métier, c'est l'or qu'ils ne peuvent... Voilà, c'est complètement le trésor qu'il ne faut pas partager. C'est la formule magique, la formule secrète. Et là, c'est effectivement comme AWS, bah, ils le mettent à disposition de n'importe qui. Ils vont... Alors peut-être que ça les rend un petit peu captifs aussi, parce qu'ils n'ont... Il faut continuer à utiliser l'algorithme si tu t'es lancé avec, parce que sinon, ça peut tout mettre par terre. Mais c'est vraiment une démarche intéressante et un
juste,
peu inattendue.
Juste une API, ce n'est pas non plus l'algorithme. Y a pas le, ils n'ont pas
le détail. Je ne pense pas qu'ils donnent le code source, non, effectivement.
Voilà, c'est ça.
Oui, oui, bien sûr, bien sûr.
C'est ça, c'est un changement de business model vers, comme tu disais, un modèle captif de ses clients qui vont être dépendants de cet algorithme-là, potentiellement avec un système d'abonnement, donc plus fait, pérenne ouais. dans le temps et moins dépendant du succès ou...
moins dépendant de
succès éphémère potentiel de certaines apps.
Tout à fait, ouais, exactement. Et puis un autre sujet que je voulais évoquer rapidement, on a parlé à plusieurs reprises des rançongiciels et des attaques qui commençaient à monter en intensité de manière inquiétante ces derniers mois, ces dernières années. Il y a deux articles intéressants, enfin deux informations intéressantes. D'une part, quelqu'un qui a dit, c'est Kevin Beaumont qui a dit pour la première fois, une chose qu'en fait, on aurait dû réaliser il y a un bon moment. Mais c'est vrai que dans le milieu des gens qui s'y connaissent un petit peu en sécurité, des experts en sécurité, on a tendance à dire « Non, mais c'est bon, il faut patcher pour que ça soit sûr. » Si, en gros, on met un petit peu la faute sur les responsables informatiques ou même les utilisateurs qui n'ont pas fait ce qu'il fallait parce qu'on n'a pas patché quand il fallait, on a cliqué sur un lien qu'il ne fallait pas. Et donc, on peut être sûr, il suffit de faire ce qu'il faut. C'est un petit peu le message qu'on a en fond et qui a généralement été valide pendant des décennies parce que la sécurité informatique était quelque chose qu'on pouvait, de manière, on va dire, plus ou moins acceptable, renforcer suffisamment. Et aujourd'hui, ce que dit Kevin Beaumont, qui est assez intéressant, c'est que les gangs qui font du ransomware, ça a vraiment industrialisé les procédés et ils ont des budgets de plusieurs millions de dollars. Et donc, le fait de dire simplement « c'est bon, tu peux patcher », on ne se bat pas à armes égales, en fait. Donc, il y a peut-être des solutions à trouver ailleurs, mais c'est une menace qui dépasse simplement les menaces traditionnelles classiques parce que c'est des attaques qui sont très ambitieuses, parfois ciblées. Et donc, ce n'est pas simplement « c'est bon, patche ton logiciel et puis tu seras tranquille ». Et d'ailleurs, dans ce sens-là, il y a des opérations des autorités, notamment américaines, mais pas que, qui s'inquiètent de la recrudescence ou de l'augmentation des rançongiciels, comme on l'avait dit il y a ces dernières semaines. Et ça commence à avoir des effets parce qu'un autre gang de rançongiciels qui s'appelle Avadon a carrément rendu public presque 3000 clés de chiffrement qu'ils avaient utilisées pour leurs victimes. Et sans doute dans le but de se dire « Oula, ça commence à être chaud là, on va filer les clés et on va disparaître discrètement, les autorités vont avoir d'autres chats à fouetter, espérons qu'ils nous oublient, ça a l'air d'être vraiment ça. » Donc peut-être que ça commence à avoir un effet, on va dire.
Ouais, surtout qu'en plus, sur les sociétés qui sont victimes comme ça de rançon logicielle, en fait, il y en a 9 sur 10 qui ne l'annoncent jamais. Donc on est très loin de connaître l'ampleur du truc. Il y en a qui préfèrent payer plutôt que d'annoncer qu'elles ont perdu des données ou alors qu'elles sont victimes d'une demande de rançon comme ça.
Donc, tout à fait, ouais.
On sait pas vraiment. En fait, on voit que la partie immergée de l'iceberg, mais on sait pas. Je pense qu'on est très loin de connaître, d'avoir conscience de l'ampleur du phénomène. Donc c'est effectivement, comme tu le disais, on est au-delà de simple avant. C'était peut-être un hacker ou alors un petit groupe, mais là c'est carrément des gangs qui sont très très organisés, quoi.
Oui, tout à fait.
Il y a eu d'ailleurs, et je crois que c'était il y a 2 semaines, j'en parlais dans un podcast, il y a un groupe de chercheurs en sécurité qui ont trouvé un forum russe où ils avaient mis ils avaient fait une sorte de concours, mais là ça concernait les crypto-monnaies, mais en tout cas ils avaient fait une sorte de concours avec 100 000 dollars de gains, donc de récompenses, pour celui qui sortait le meilleur papier blanc sur comment voler de la crypto-monnaie. Il y avait eu beaucoup de participants.
On imagine, oui, effectivement. Et oui, c'est, les enjeux commencent à être si importants que ça modifie un petit peu la géométrie de ces écosystèmes, quoi. Donc, on ne peut pas garder les mêmes analyses, les mêmes considérations quand ces géographies changent. Donc, c'est intéressant à noter.
Et puis on est très dépendant de Windows aussi, c'est vrai que,
oui,
que 99%
c'est...
des touches Windows, et bon, voilà.
Ça, c'est un autre problème. Si on était tous sur iOS, le problème ne se poserait pas. Je plaisante.
Oui, ou
évidemment.
Alors, bien
évidemment,
que...
je plaisante.
Tout simplement, le plus gros poisson serait sur iOS et tout le monde irait. Voilà.
Exactement, oui. Écoutez, on va faire une toute petite pause pour que je vous parle de Patreon. Vous savez ce qu'est Patreon, c'est le moyen de soutenir le rendez-vous tech et... Pour ça, c'est très simple, vous allez sur patreon.com/rdvtech, vous vous abonnez pour une somme assez modique, 1 euro, 2 euros, vous choisissez, et c'est le moyen de permettre à cette émission de continuer à être produite. Ça me permet d'acheter à manger, d'acheter des vêtements pour mes enfants, toutes ces choses, d'acheter aussi des petits trucs qui me font plaisir de temps en temps, je vais l'avouer. Mais le plus important, c'est que ça vous permet aussi d'avoir des bonus, parce que, évidemment, le tout n'est pas d'aider un contenu que vous appréciez à être produit, même si c'est important. Il y a aussi des bonus assez cool, comme par exemple les éditos que je fais régulièrement. J'en parlais la semaine dernière. Le dernier édito en date, c'est un édito où j'explique pourquoi TSMC est la société la plus importante au monde de très loin. Et je pense que même en sachant ça, c'est mon analyse, hein, c'est moi qui dis de très loin, peut-être que c'est pas de très loin, mais je pense que même en sachant qu'elle est si importante, vous n'imaginez pas à quel point elle est importante. Et je détaille ça un petit peu dans mon dernier édito. Donc ça, c'est un des bonus que vous avez. Vous avez aussi les émissions entièrement sans pub. Vous avez les émissions sans pub, ça veut dire aussi sans ce petit laïus au milieu de l'émission. Vous avez tout plein d'autres petits bonus fort sympathiques. Donc, si vous appréciez le rendez-vous tech, j'aimerais vous encourager à aller jeter un coup d'œil du côté de patreon.com/rdvtech. Le lien est dans les notes de l'émission. Un grand, grand merci à tous ceux qui le font déjà. Et si vous décidez d'aller y jeter un coup d'œil, je vous remercie par avance. Ça prend vraiment 2 minutes. Vous pouvez vous inscrire depuis votre téléphone mobile. C'est hyper rapide. Mais si vous voulez attendre de rentrer chez vous, quand vous mettez les clés dans le bol, ça fait cling et là, vous dites Patrick. Et à ce moment-là, vous dites « Ah bah oui, il faut que je check le Patreon du Rendez-vous Tech. C'est à ce moment que je vais le faire. » Donc n'oubliez pas, clé dans le bol, réflexe pavlovien, Patrick est rentré dans votre cerveau et vous oblige, non, vous invite à aller regarder patreon.com/rdvtech. Merci à vous tous.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Parlons un petit peu d'Apple, tiens. On n'a pas, ça fait au moins une semaine qu'on n'a pas parlé d'Apple. ça faisait longtemps, c'est ce que tu disais, Marion. Oui, je suis d'accord.
Oui.
Alors, plusieurs petites choses. D'abord, dans les métadonnées de la vidéo YouTube de la présentation de la WWDC, il y avait des termes comme M1X, le processeur M1X, et M1X MacBook Pro. Ce qui laisserait penser qu'il était peut-être prévu de présenter un nouveau MacBook Pro avec le processeur M1X et que finalement, au dernier moment, ils ont changé d'avis. D'ailleurs, j'ai vu passer des messages assez hilarants d'utilisateurs Apple qui ont revendu leur MacBook avant la conférence pour les vendre à bon prix et pouvoir en acheter un de ceux qui auraient été annoncés. Manque de peau, il n'y en a pas qui ont été annoncés. Donc, ils se sont retrouvés sans appareil. J'espère que ce n'était pas leur appareil de boulot principal, mais ça m'a bien fait rire. Mais donc, ils ne devraient pas trop tarder à arriver. Et puis, une autre chose intéressante, c'est le Dolby Atmos qui est, selon plusieurs experts du son, et du coup, je suis content d'avoir Marion aussi ici, on parlait du lossless, du son de haute qualité il y a 3 ou 4 semaines. Eh bien, aujourd'hui, on peut parler un petit peu du Dolby Atmos parce que la réaction de nombreux experts a été « Oh mon Dieu, le lossless, c'est une chose, mais le Dolby Atmos, le son spécialisé, c'est tellement mieux, c'est tellement incroyable. » Et moi, je me suis précipité sur mon iPhone pour écouter un petit peu ce que ça donnait. Et j'ai entendu, du coup, les pistes de son spécialement faites pour ça, pour mettre en avant les avantages du Dolby Atmos. Et je suis d'accord que ça a une sonorité un peu différente, mais moi j'étais un peu « Ah ouais, ok, ça c'est sympa, ok, ça c'est le mono, bon, c'est vrai que c'est un peu plat, ok, la stéréo, c'est différent. Bon, maintenant le Dolby Atmos, ah ouais, c'est encore différent en fait, ok. » Et ouais, je crois que j'ai des oreilles un peu cassées. Hein.
Oui, moi aussi, c'est la même chose. Moi,
c'est vrai, c'est à force d'écouter des podcasts ouais, en 96 km par seconde.
Oui, c'est à force d'entendre mes collègues gueuler dans les micros que j'ai dû perdre une partie de Louis, probablement. Mais souvent, sur les avancées comme ça technologiques en termes de son ou même des fois d'image, honnêtement, j'ai du mal à voir les différences. Mmh. Bon, c'est sûr, quand tu passes du 720 au 4K, tu vois clairement la différence. Mais là, pour l'audio, franchement, je suis un peu...
Bah du coup, on a Marion. Alors, on a parlé en long, en large et en travers du lossless donc la dernière fois, et tu nous expliquais à quel point il est important d'avoir toute une série de, enfin que tout le matériel soit au niveau niveau pour vraiment en profiter. Sur le Dolby Atmos, il y a vraiment beaucoup de gens qui utilisent du matériel normal, qui disaient dans mes mentions Twitter, dans certains articles, oh là là, c'est complètement fou. D'ailleurs, il y a même dans les nouvelles versions des OS des processus qui automatisent la spatialisation du son qui n'est pas spatialisé à la base, qui est juste en stéréo, qui simule le son spatialisé. Donc vraiment, ils le poussent beaucoup. Marion, est-ce que c'est moi qui ai des oreilles déficientes et c'est vraiment intéressant ou est-ce que les gens se mettent à croire leur propre hype et leur propre enthousiasme ?
Alors, pour information, moi, je n'ai pas Apple Music, donc je n'ai pas testé en long, en large et en profondeur, mais Jérôme m'en a parlé, et notamment un album que j'adore de Glass Animals qui faisait partie des albums disponibles avec Dolby Atmos. Et en fait, le principe, c'est qu'un son, ou en tout cas une musique, une chanson, va être plus agréable à écouter, plus les sons sont différenciés, fins, ou plus il y a de détails. Et donc, ajouter la spécialisation, ça va aider justement à séparer et à discerner les instruments, les sons, la voix du reste. Et donc, ça va enrichir en fait la qualité. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va tous apprécier de la même manière ce changement ou qu'on va réussir à le discerner. Parce que comme tu le disais, il faut avoir l'oreille. Il faut d'abord ne pas avoir heurté son oreille trop, trop sévèrement. Moi, par exemple, j'ai fait des tonnes de concerts, donc je ne suis pas sûre que mon ouïe, ça soit un top niveau non plus, même si je fais évidemment maintenant beaucoup plus attention que quand j'étais jeune, enfin, quand j'étais plus jeune, on va dire. Mais, et puis après, oui, voilà, j'essaye d'être un peu plus... je suis encore jeune.
Tout à fait, bien sûr.
Après, il faut avoir le matériel, ouais. Il faut avoir l'oreille éduquée aussi. C'est-à-dire que, en fait, si on a eu l'habitude, si on n'est pas audiophile, donc on n'a pas grand intérêt, on ne va pas forcément faire très attention. Et puis après, il y a une notion de éduquer un peu plus l'oreille, revenir à quelque chose de moins bonne qualité, recomparer avec du Dolby Atmos et voir si on discerne une. Voilà, donc il y a une éducation aussi à avoir. Donc ce n'est pas forcément super évident et ça ne m'étonne pas qu'il y ait pas mal de personnes qui soit ça ne va pas beaucoup les émouvoir et c'est tout à fait ok. D'autres ils vont juste pas discerner et c'est normal aussi, ça arrive pas du jour au lendemain. Pour info, je vais tester Apple Music cet été. Je vais juste trouver un outil qui va me permettre de ramener mes playlists sur Apple Music pour pouvoir tester avec les sons que j'aime bien. Mais ce n'est pas encore fait de mon côté.
D'accord. Bah, tu nous feras peut-être un rapport complet après l'été pour nous dire si tu as vraiment
senti
une différence.
À la rentrée, on se donne rendez-vous.
Mais c'est vrai que tout ce que tu me dis, en fait, ça me fait penser un petit peu, comme le disait Siegfried, quand tu passes de la SD ou du 720p à la HD, on va dire de la SD à la HD, là, c'est pas possible de ne pas le voir. Tout à coup, c'est schlac, ça te met dans les yeux et clairement, tu as... Une finesse qui est claire et c'est difficile de revenir en arrière. Par contre, quand on passe SDR au HDR, donc à la profondeur des couleurs, là, ça met, en tout cas pour moi, dans mon expérience, ça a mis beaucoup plus longtemps, j'ai mis beaucoup plus longtemps à m'y habituer et à percevoir vraiment la finesse de cette... c'est pas de la définition, bon, bien sûr, quand on est en 4K, ça joue aussi, mais... La profondeur des couleurs et la manière dont c'était différent du SDR. Et aujourd'hui, vraiment, quand je regarde une image en HDR qui est vraiment prévue pour en montrer les détails, je le vois et je l'apprécie. Alors qu'il m'a fallu, je dirais, quelques semaines, quelques mois, quand j'ai acheté ma télé HDR, pour vraiment m'y faire et percevoir et comprendre ça. Mais aujourd'hui, oui, si je vois du HDR, c'est clairement beaucoup plus beau que du SDR, c'est plus profond, c'est plus subtil, etc. Je me demande s'il n'y a pas un petit peu de ça aussi dans le Dolby Atmos et le son spatialisé, et peut-être qu'il faut un moment pour s'y habituer et vraiment comme tu le disais, éduquer un petit peu son oreille, et puis, même si on n'est pas un expert, commencer à le percevoir, quoi. Je voulais aussi évoquer un autre sujet qui est... évidemment proche d'Apple, parce que c'est eux qui mènent la bataille, c'est la question de la protection de la vie privée et des discussions qu'on commence à avoir et que je vois apparaître à différents endroits sur les conséquences, sur les revenus, bien sûr, des gros éditeurs, mais aussi des utilisateurs ou des petits créateurs. il y a plusieurs angles par lesquels aborder cette question, mais je crois que d'une manière générale, on va avoir non pas un retournement sur la nature de la discussion sur ces sujets, mais au moins un nouvel élément qui va être intégré à cette discussion et qui va devenir inévitable, je pense, au cours des mois et des semaines et des mois à venir, qui est justement cette question de est-ce que c'est vraiment la meilleure solution de cloisonner complètement et de manière presque inchangeable les données privées des utilisateurs. Un exemple que je prends, c'est notre ami Julien Cadeau qui témoignait sur Twitter de l'utilisation du relais d'Apple, vous savez, cet service de VPN qui s'inclut à iCloud, iCloud Plus, et de la manière dont il changeait les publicités qui étaient affichées sur le site, sur le site de Numérama. Julien Cadeau, c'est humanoïde. Oula, pardon. Donc, il constatait que sans les données privées, les publicités étaient complètement inintéressantes et d'assez mauvaise qualité, et en tout cas certainement pas ciblées à ce qu'il pouvait l'intéresser lui. Et sans utiliser le relais, les publicités étaient évidemment beaucoup plus intéressantes pour lui. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des sites en question, ils ne vont pas supprimer les publicités quand on passe par des outils de protection de ce type-là. Ils ne vont pas les supprimer. Ils vont simplement en afficher d'autres avec moins d'informations sur vous, donc sans doute des publicités qui seront moins intéressantes pour vous. C'est aussi, il y a d'autres éléments de discussion qui touchent à ce domaine, c'est la question de la vie privée dans Mail et qui va influencer énormément la capacité des marketeurs à avoir des informations sur les emails qu'ils envoient. Il faut savoir une chose, c'est que 90% des emails ouverts sur mobile sont ouverts sur un iPhone. C'est incroyable, hein, mais il semblerait...
J'ai lu ça, ça me semble absolument incroyable. J'arrive pas à y croire, en fait.
Moi non plus, je t'avoue que je suis très surpris.
L'iPhone, c'est quoi, 25% du marché, Android 75%.
On est tout à fait d'accord, c'est surprenant, mais il semblerait que ça soit le cas, que les gens utilisent plus leur mail sur iPhone que sur Android. Alors, je ne sais pas si c'est parce que, j'en sais rien, les utilisateurs Android sont plus jeunes et donc n'utilisent que WhatsApp et tu vois, ce genre de choses, j'en sais rien. Mais en plus de ça, les emails en général sont ouverts sur mobile, c'est 50% du marché total des emails. Donc, le fait que Apple influence le fonctionnement des emails, et dans tous les cas, que ça soit 90% ou un peu moins, ça a énormément d'influence sur le fonctionnement de ces outils. Et quand on dit marketing, vous allez dire « Ah, c'est ces mails marketing que j'ai pas demandé qui ne servent à rien », mais ça peut être aussi des newsletters qui sont auxquels vous vous êtes abonné, qui vous intéressent. Et ben les gens qui fabriquent ces newsletters vont avoir beaucoup moins d'informations. Par exemple, le fait de savoir combien de ces newsletters sont ouvertes, on pourra plus savoir ce genre de choses. Alors je dis pas que c'est bien ou pas bien, hein, mais simplement ça a une grosse influence là-dessus. Et puis pour en rajouter encore une couche, il y a plusieurs développeurs de services comme Fanhouse, qui est un équivalent de Patreon, ou OnlyFans, qui est encore un équivalent de Patreon, mais qui est plutôt pour les créateurs de contenu pornographique. Eh bien, ils ont témoigné du fait que Apple était en train de commencer à les contacter pour demander 30% des revenus. Et alors, il le caractérise de la manière 30% des revenus des créateurs. Donc, on veut passer les sous aux créateurs, mais Apple nous demande des revenus, 30% des revenus totaux qui sont payés sur les apps. Alors, je comprends pourquoi, hein, c'est toujours dans cette politique de l'App Store, mais ça déplace encore la discussion sur ces sujets, etc., etc. Il y a plusieurs autres éléments à cette discussion, mais dans l'ensemble, je me demande si on n'est pas en train de voir petit à petit la conversation glisser de Apple sauvegarde nos données privées, hurra, bravo, à peut-être que ça risque... Peut-être que... Je sais que c'est encore un petit peu... un petit peu tendancieux de dire ça comme ça. Et moi, j'ai une partie des revenus de l'émission qui viennent de la pub, mais le principal vient de Patreon. Donc, j'ai un petit peu le pied dans les deux domaines, mais je me demande si la discussion ne va pas commencer à glisser un peu à un domaine. Peut-être qu'ils en font un peu trop, quoi. Je ne sais pas. Mais certainement, je vois cette discussion commencer à poindre dans les domaines des initiés. Je me demande si vous avez un avis là-dessus. C'est une discussion, un sujet compliqué, mais...
30% c'est beaucoup, hein, ça a toujours été beaucoup, et surtout quand tu effectivement quand tu attaques des revenus de particuliers comme ça, parce que c'est vraiment tu parlais de OnlyFans ou de
Fanhouse,
c'est ça,
ouais, voilà, qui est un tout petit, c'est pas... une toute petite app, hein,
mais, voilà, ouais. Mais c'est vraiment des généralement c'est des particuliers ou c'est des gens qui sont indépendants et qui gagnent vraiment pas énormément. Prendre 30% sur leurs revenus en plus de toutes les ce qu'ils ont à payer à côté, c'est énorme, quoi, sur
Alors, Apple, après, vous dirait,
y a d'autres moyens, parce que, voilà.
Apple, ouais, vous dirait, on prend 30% des revenus qui sont générés sur notre plateforme, on ne prend rien sur ce qui est généré ailleurs, donc ça vous amènera des revenus de... Je me fais un petit peu l'avocat du diable ou l'avocat d'Apple, c'est un peu la même chose, mais on prend 30% de ces revenus que vous n'auriez peut-être pas eu du tout sans notre super plateforme, super facile, qui encourage les gens à utiliser. On pourrait rigoler, mais si ce chiffre de 90% des emails et sont ouverts sur iOS est exact, tu vois, ça montre à quel point l'expérience contrôlée et facilitée encourage les gens à utiliser le produit. Donc peut-être que, je ne sais pas, ça pourrait se valoir.
Je sais pas, ouais, moi j'ai l'impression que Apple, ils ont toujours une clientèle qui est un peu captive, quoi. Et que du coup, si tu veux toucher tous les gens qui ont un iPhone et qui sont sur Apple et qui vont pas utiliser d'autres plateformes, forcément, t'es bloqué, quoi.
Marion ?
Il y aura peut-être une règle comme sur l'App Store qui va être mise, c'est-à-dire en dessous d'un certain nombre de téléchargements ou en dessous d'un certain nombre de revenus, ils n'auront pas ces pourcentages de mis en place, quoi.
Et du coup, il faudrait le faire par créateur aussi.
Ouais,
parce que...
Non, mais je ne dis pas que c'est simple, hein, ouais. mais en tout cas, on voit qu'ils l'ont fait sur l'App Store. Donc, à voir comment ils pourraient améliorer les règles. Parce qu'en fait, il s'agit de ça, hein, c'est de faire évoluer en fait, la réglementation de l'App Store. Ce n'est pas fixe et gravé dans le marbre. On l'a vu ces derniers temps, comme tu l'as dit. Depuis un certain temps maintenant, on voit ces règles de l'App Store où beaucoup de personnes demandent d'abord plus de transparence et une meilleure prise en compte des différents cas. Parce que il y a une différence entre Apple se lance sur le marché des App Store et précurseur et donc permet tout un nouveau business model, et Apple est un omniprésent et maintenant a une part de marché qui est dominante. Et là, c'est plus du tout les mêmes règles qui doivent s'appliquer.
C'est sûr. Bon, on s'est focalisé sur l'App Store, mais c'était une réflexion qui est plus générale sur le private relay, l'histoire de protection de mail, etc. Ouais. C'est en gros, ils font ce qu'ils ont annoncé faire, c'est-à-dire rendre la publicité ciblée impossible ou très 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 difficile. Et la conséquence, c'est la conséquence de ce qu'ils allaient faire, c'est-à-dire que la publicité ciblée est quasiment impossible ou très 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 difficile. Et donc forcément, le fait de payer, entre guillemets, le contenu avec de la publicité, en regardant de la publicité, en étant ciblé par de la publicité, le fameux « si le truc est gratuit, si le produit est gratuit, c'est vous le produit », oui. Sauf que, comme on le dit déjà depuis quelques semaines, mais là, ça semble revenir sur le devant de la scène, enfin, ça semble avoir un petit peu plus faire plus de remous dans le domaine de la tech. Peut-être, mais ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Alors, Apple va vous dire, oui, mais on vous donne le choix, vous pouvez désactiver ces options, mais elles sont activées par défaut. Donc, qui va aller dans les paramètres de son iPhone pour activer l'option « traquez-moi sur Internet », tu vois ? Alors, peut-être que des gens vont le faire.
Quelques-uns, mais bon, c'est sûr que ça... c'est peut-être 1%.
Ouais. Surtout qu'on a déjà, dans l'Union européenne... le GDPR qui nous oblige à chaque fois qu'on va aller voir un site, enfin oblige les sites à nous proposer de ne pas nous traquer.
C'est enfer.
Alors moi je le fais à chaque fois, généralement je fais plutôt refuser. Aujourd'hui ça prend 2 clics, mais c'est 2 clics par site. C'est un peu. Bon, bref.
C'est compliqué parce que, on en a déjà parlé plein de fois, mais je trouve que c'est contre-productif parce que tu vas sur un site, au bout d'un moment, je clique sur le plus gros bouton parce que je veux juste lire un article et je me retrouve avec un panneau qui fait la moitié du truc. Et je pense que
le plus gros bouton, c'est toujours accepté, évidemment.
Donc au bout d'un moment, tu fais, moi, je m'en fous de toute façon, c'est pas comme si.
Non, mais ce qui est marrant, c'est que là, avec Apple, avec les appareils sous iOS et peut-être d'autres après, et d'ailleurs, ça va marcher sous macOS, j'imagine aussi, mais. Du coup, ça rend caduque cette opération, parce que de toute façon, ils n'auront pas vos infos, donc bref.
Mais est-ce que tu verras quand même le bouton ne pas me sur...
Ah bah ça, oui, oui, mais oui, tu voilà, verras quand même, donc bon, ouais. Intéressant. Bon, quelques autres petites news pour conclure. Vous vous souvenez de Magic Leap, cette société qui était censée fabriquer des lunettes de réalité augmentée complètement folles qui vous envoyaient des images dans la rétine. Je ne sais plus quel est le nom de la technique. Mais quoi qu'il en soit, ils sont en train, il semblerait, de perdre.
Ils ont été rachetés par Afflelou.
Pas tout à fait, ou peut-être qu'il a fait le ménage. CTO, COO et le Chief Patent Officer, le chef des brevets, qui sont en train de se barrer et ils sont en train de récupérer d'anciens qui étaient partis. Bref, tout ça pour dire que Magic Leap, c'est marrant d'en parler parce qu'ils ont eu valeur boursière totalement folle et c'était un petit peu la société mystère de la Silicon Valley pendant quelques années. Là, bon, peut-être que ça va toujours sortir un produit de fou, mais ça a l'air d'être quand même un petit peu de mal se passer au sein de cette boîte. Je voulais aussi mentionner le fait que Proton Mail est en train de faire un gros push sur leur nouvelle version. Alors, si vous ne connaissez pas Proton Mail, on parlait de vie privée justement. Et ben, Proton Mail, c'est un service suisse qui est fondé sur la protection de la vie privée. Ils ont un service de mail, ils ont aussi un service de calendrier, un service de drive. Ils sont en freemium, il y a une option gratuite et puis ensuite on peut s'abonner. C'est un service. Alors, moi, j'ai un compte chez Proton Mail hein, depuis longtemps. C'est pas que je m'en sers tout le temps, mais je crois, si je ne m'abuse, que c'est le service le plus simple et le plus connu pour avoir un mail bien protégé. Je suis sûr qu'il y en a d'autres, hein, mais c'est celui qui me vient à l'esprit et que je recommande généralement quand on me pose la question depuis très longtemps. Donc Proton Mail a été en plus refondu. On ne va pas se mentir, ça ressemble un petit peu dans les fonctionnalités à Gmail, ce qui n'est pas une mauvaise chose parce que Gmail est quand même très très bien foutu. Donc à noter.
Qu'est-ce que tu dirais pour ceux qui ne connaissent pas Proton Mail, pourquoi s'intéresser à ce service ?
Bah, si vous voulez un service de mail qui protège votre vie privée, qui est chiffré de bout en bout et qui ne se monétise pas sur vos données privées, comme c'est le cas de Gmail ou d'autres, eh bah, Proton Mail est une option indépendante, qui est une société qui est encore une fois suisse et qui est fondée sur ces principes et qui, à ma connaissance, est assez reconnue pour l'intégrité de leur démarche et qui, en plus, a, je crois, 50 millions d'utilisateurs aujourd'hui. Donc, c'est un truc sérieux. Donc, voilà, c'est simplement l'option. C'est le Gmail pour ceux qui ne veulent pas être traqués, en gros. Voilà.
Et du coup, c'est payant dans ce cas s'ils ne monétisent pas.
Alors, il y a une option gratuite. Il y a une option gratuite qui est relativement limitée mais complètement utilisable. Et ensuite, on peut s'abonner si on veut toutes les fonctionnalités du service. Donc,
merci.
Voilà. C'est... En tout cas, moi, c'est celui que je recommanderais si les gens me disent « je veux un mail qui ne me traque pas ». Proton Mail, comme un proton et mail. Google a finalement décidé de ne pas mettre en place ou d'arrêter la mise en place de son étrange système de sélection des moteurs de recherche sur Android. Vous vous souvenez que l'Union européenne avait imposé à Android de pouvoir permettre aux utilisateurs de sélectionner le moteur de recherche qu'ils souhaitent utiliser. Ils avaient fait un système très compliqué d'enchères sur la somme qu'acceptaient de payer les moteurs de recherche dans le cas où un utilisateur d'Android cliquait sur un lien proposé par le moteur de recherche. C'était un petit peu compliqué. Finalement, ça sera beaucoup plus simple. Ils vont proposer 5 moteurs de recherche qui seront parmi les 5, qui seront les 5 les plus populaires. Ils peuvent en mettre plus ensuite pour les marchés où il y a plus de 5 moteurs de recherche populaires. Mais en gros, ça sera les 5 les plus populaires dans un ordre aléatoire. Bien sûr, il y aura Google aussi, puisqu'il fait partie des plus populaires partout. Mais ça sera beaucoup plus simple. Tout le monde a l'air relativement content. Quant, DuckDuckGo, etc., etc. Donc bon, voilà. Sur Android, vous pourrez choisir simplement un moteur de recherche que vous aimez et ça sera réglé. Et enfin, j'ai encore deux petites news, mais sur cette petite série, je suis sûr que Siegfried, tu espérais pouvoir te joindre à Jeff Bezos et son frère dans le premier vol de Blue Origin qui allait dans l'espace avec des humains à bord. Je ne sais pas si c'est toi qui as gagné l'enchère sous un pseudonyme, mais c'était 28 millions de dollars. Donc, si ce n'était pas toi, c'était un petit peu cher.
Non, alors malheureusement, ce n'est pas moi. En même temps, heureusement, parce que je n'avais pas envie d'y aller. Mais bon, mais la question, c'est est-ce que le mec a payé 28 millions de dollars pour aller dans l'espace ou pour passer une demi-heure avec Jeff Bezos?
Alors, on ne sait pas.
C'est une bonne question, ça.
Ouais, c'était à l'origine, Jeff n'était pas censé y aller. Ça a été annoncé il n'y a pas longtemps. Et puis, encore une fois, l'espace, c'est faut le dire vite. Hein, tu vas très haut et puis tu vois la courbure de la Terre. Mais bon, 28 millions de dollars, peut-être, comme ça a été annoncé avant la fin des enchères, peut-être que c'était pour passer un petit moment avec Jeff Bezos. Est-ce que, en fait, la grande question, c'est, une fois que tu as fait ça avec Jeff Bezos, est-ce que tu as son 06 et il décroche quand tu l'appelles? C'est ça la question, en fait.
Écoute, il y a peut-être moyen.
Si c'est le cas, ça peut valoir le coup. C'est un bon ami à
ça. Ça dépend de l'intimité qu'il y a au sein de la navette. Et généralement, il n'y a pas énormément d'espace. Donc bon, ça serait propice.
Non, mais quand je disais 06, c'était pour une... Je ne sais pas, si tu veux voir un film ensemble, tu vois, ce n'est pas forcément des questions romantiques. Mais en même temps, il vient de quitter sa femme. Donc peut-être, il y a des possibilités, on ne sait pas.
Ils ont déjà divorcé ou pas?
Non. Je crois bien, oui, ça a été... En tout cas, c'est en cours. Donc, ils sont séparés au minimum. Donc,
je pense que les actionnaires d'Amazon vont avoir... Ils vont regarder de très près le lancement. C'est la première fois qu'ils vont utiliser et envoyer des humains dans cette fusée. Bon, elle a déjà fait plusieurs tests et tout, mais c'est la première fois que des êtres humains vont monter dedans.
C'est ce qu'on disait la semaine dernière.
C'est peut-être pour ça qu'il n'est plus le CEO. Hein.
Exactement. Ouais. C'est marrant, on redit la même chose. C'est ce qu'on disait la semaine dernière. On se disait, c'est peut-être pour ça qu'il a annoncé le départ de son poste il y a deux mois. Parce que bon... mais mine de rien, on disait ça en plaisantant, mais c'est tout à fait possible, quoi. T'imagines le président d'une des plus grosses sociétés du monde qui va faire un vol en fusée spatiale. Ça doit être... disons que l'assurance aurait été un petit peu plus chère, peut-être.
Mmh. Ouais.
Ouais. J'espère que Elon Musk ne va pas saboter la fusée pour se débarrasser de son...
Il en serait bien capable. T'as vu cette histoire de chaîne YouTube, entre guillemets, Anonymous, un petit peu, ça a l'air d'être truc un petit peu la marque, qui fait des menaces à Elon Musk?
Oui, j'ai vu ça. J'ai vu ça vaguement. Je pense pas qu'il a très très peur, hein. Ça doit pas lui...
Ça a l'air d'être un peu... Ça a l'air d'être un truc pour qu'il puisse vendre plus de t-shirts, hein. La vidéo en question. Pas Elon Musk, hein, mais la chaîne Animus, ils se sont dit, on a un bon truc, on va troller Elon Musk, ça marche toujours. Donc bon.
Et avec un peu de chance, il va réagir, ce qu'il exactement a peut-être pas fait encore.
C'est ça.
Ouais, je sais pas. Mais là, il y a Tesla qui a annoncé qu'ils allaient reprendre l'achat de Tesla en Bitcoin à partir du moment où les mineurs utiliseraient 50% d'énergie renouvelable. Donc, ça va encore faire rebooster le Bitcoin probablement aujourd'hui. Là, il y a quand même de la grosse manipulation de cours. Hein,
ça a l'air d'être un petit peu... Oui, en plus, tout le monde s'inquiétait de la chute du cours... il y a une étape à 30 000 qui est visiblement particulièrement importante. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais il semblerait qu'il y ait d'autres présidents d'Amérique latine après le président du Salvador qui soient en train de se dire « Ah, mais peut-être que nous aussi, on devrait adopter des crypto-monnaies comme monnaie officielle du pays. Ça pourrait être... »
C'est à la fois une bonne idée et la pire idée du monde. Franchement, c'est le Far West. Hein, honnêtement, là, sur les crypto-monnaies, il faut avoir le cœur bien accroché si tu te lances là-dedans.
En plus, l'article de Rest of World, qui est une excellente publication qui parle de ces sujets, sont en train de dire que c'est vraiment une opération de com, au minimum pour ces autres politiciens d'Amérique latine. C'est pas une question de... cohérence économique, c'est vraiment une opération de com parce que ça fait un petit peu rebelle, on se bat contre l'ordre établi, etc. Et donc c'est pour remonter leur profil, on va dire. Donc bref, avec tout ça, il n'est pas impossible que les bitcoins remontent, hein, on ne sait pas, ou qu'ils redescendent. Vraiment, aucune idée.
oui, c'est dur d'avoir des prédictions là en ce moment.
Tout à fait. Bon, la prédiction qu'on aimerait pouvoir faire, c'est que les ruptures de stock et les difficultés d'approvisionnement des puces dans le monde entier vont se résorber. Et ben, figurez-vous que c'est peut-être pas pour demain, parce qu'il y a des explosions, semble-t-il, de la pandémie à Taïwan et en Malaisie. Qui sont des explosions, j'exagère un peu, mais en tout cas des reprises de vagues dans ces pays qui étaient particulièrement protégés socialement, parce qu'ils avaient les masques, ils avaient de la distanciation sociale et ils étaient prudents. Et donc, ils ne se sont pas beaucoup vaccinés. Et maintenant que les choses, entre guillemets, reprennent un petit peu leur cours, il y a eu des cas à répétition. Et donc, si vous avez écouté mon édito réservé aux Patriotes sur la société la plus importante du monde, vous savez qu'il y a des choses importantes qui se passent dans cette région, en particulier à Taïwan.
La Chine.
Et oui, non, mais surtout avec TSMC. Et donc, ça risque de poser des problèmes avec des problèmes encore plus importants avec l'approvisionnement. Donc, on n'est pas encore sorti d'affaire, on va dire ça comme ça.
On n'aura pas tous demain notre PS5.
Écoute, moi, je l'ai déjà, donc les autres, je m'en fous.
Ah, mais... chanceux.
Et à propos de PS5, on a, alors c'est Sony est la seule société qui n'a pas une conférence spécifiquement à l'E3, mais il n'empêche, l'E3 est en cours. Pour ceux qui ne le savent pas, l'E3 c'est le grand moment du jeu vidéo dans l'année, où tous les constructeurs, les développeurs présentent leurs nouveautés, et on va en faire un épisode spécial pour le rendez-vous jeu qu'on enregistre tous les jeudis, et on va vous résumer absolument tout ce qu'il fallait retenir de cette E3. Il est encore en cours, mais on a presque fini. Il y a des tonnes de choses à dire, donc je ne vais pas en parler énormément ici, mais si ça vous intéresse, et même si ça ne vous intéresse pas, si ça vous intéresse un tout petit peu, les jeux vidéo, je dirais que c'est le moment d'aller écouter le rendez-vous jeu. C'est le moment où le moment où l'industrie est la plus effervescente. Et donc, le jeudi qui vient, là, le 16, on a le prochain épisode. Non, le 17, on a le prochain épisode, et ça devrait être particulièrement intéressant. Et c'est sur ces bons mots qu'on arrive à la fin de cet épisode fort intéressant au final. J'aimerais vous remercier tous les deux de m'avoir accompagné dans cette petite aventure du monde de la tech. Avant de
se quitter.
Merci
à toi de nous avoir invités.
Mais, Captain, c'est un plaisir de t'avoir, c'est un honneur. C'est un petit peu comme Jeff Bezos qui se retrouve dans quelqu'un qui se retrouve dans une fusée spatiale avec Jeff Bezos.
Attention,
il espère avoir le 06. Moi, je n'ose pas te le demander, mais peut-être qu'un jour, à force de proximité, nous finirons par pouvoir échanger nos numéros de téléphone. Mais pour le moment, peut-être que tu peux déjà dire aux auditeurs où ils peuvent te retrouver. Pour ceux qui ne savent pas, c'est le Captain Web, le podcast tech de référence. Bon, tech et d'autres choses. Tu as remarqué que j'ai mis une news qui incluait OnlyFans juste pour toi dans cet épisode.
Oui, je sais. Tu sais reconnaître mes sujets d'intérêt. C'est bien.
Alors, où peut-on te retrouver, dis-moi, Siegfried?
Eh bien, écoute, tu peux nous retrouver sur Twitter, entre autres, donc Captain Web ou Apéro du Captain, et puis sur toutes les applications de podcast Apéro du Captain pour écouter nos horribles productions. Alors, malheureusement, on n'a plus Lulule qui s'est terminé, puisqu'on a annoncé le vinyle, là, il n'y a pas longtemps, de nos génériques. Un petit message à ceux qui ont participé, ça va arriver un jour, pas forcément demain, mais d'ici 3-4 ans, je pense que vous recevrez ce que vous avez acheté pour beaucoup. Voilà.
Super, l'apéro du Captain, c'est, on va dire, un rendez-vous podcastique, un peu tech et bien arrosé, fort sympathique.
Voilà. Pas très à jour au niveau des news, parce qu'on a toujours 5 mois de retard sur la publication, mais bon.
Voilà. Et comment dire, un peu paillard, on va dire, quand même aussi, pour prévenir les gens.
Oui, voilà, c'est la technologie paillarde, c'est ça. C'est voilà. Un bon résumé.
C'est pas mal comme short description.
Oui. Ouais.
Je pense que je vais mettre ça comme slogan sur...
Technologie Payard.
Sur Apple Podcast, ça va être bien.
Marion, où te retrouve-t-on, dis-moi?
Moi, vous pouvez me retrouver également sur Twitter au pseudo Isaiah Design ou sur la chaîne YouTube et Twitch Naotech pour le mug tous les matins.
Magnifique, mais c'est pas toi qui fais tous les matins, hein, on est d'accord.
Non, oui, en effet, ça peut... prêté à mauvaise interprétation. Non, moi, je fais que le mercredi matin.
Donc, écoute, là, on enregistre lundi, ça sera publié lundi. C'est pile le bon moment, en fait, dans la semaine, pour se souvenir que mercredi matin, il faut aller sur la chaîne Nowtech de Twitch ou de YouTube pour voir le mug, la présentation des news de la journée par Marion, mercredi matin.
Tout à fait.
Super.
Merci.
Merci beaucoup Marion, merci Siegfried. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter, Facebook et Instagram. N'oubliez pas que pour avoir les éditos, j'espère, de qualité, que les auditeurs pensent, semblent apprécier, vous pouvez soutenir l'émission sur patreon.com/rdvtech. Vous pouvez également retrouver tout ce que je fais sur notepatrick.com et notamment le rendez-vous jeu où on va résumer tout le 3. J'ai déjà quelque chose comme 200 ou 250 liens, c'est complètement fou, mais on va vous résumer ça et vous montrer, enfin vous présenter tout ce qu'il ne fallait pas rater dans un format sympathique et relativement compact. Donc ça sera jeudi sur le rendez-vous jeu. On vous remercie tous de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous dans une semaine pour le prochain épisode. Ciao à tous.